en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Qui n'a pas entendu le nom du génial déchiffreur des hiéroglyphes, tout à la fois philologue, historien, archéologue, connu comme le pionnier de l'égyptologie dont les travaux ont sorti du silence 3 millénaires d'histoire pharaonique. Avec nous aujourd'hui, au micro de Canal Académie, l'égyptologue Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous présente l'illustre figure de Jean-François Champollion. Jean Leclan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été professeur au Collège de France, Jean Leclan, pendant votre carrière universitaire et durant vos missions de fouilles archéologiques, vous vous êtes consacré à l'histoire et à la civilisation pharaonique, en particulier à ce qu'on appelle la 25e dynastie et à la civilisation méroïtique. Les sites archéologiques de Karnak, Tanis, Saqqara, de Soleb, de Sedinga, plus au sud, au Soudan, ont-ils encore des secrets pour vous? Je ne crois pas. On vous doit, parmi l'ensemble de votre œuvre, d'avoir déchiffré avec vos équipes le fameux texte des pyramides, qui est le plus ancien corpus religieux de l'humanité sur le site de Saqqara, dont le rôle était d'apporter aux défunts tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour son voyage dans l'au-delà. Vous aider à faire comprendre que les pyramides ne sont pas muettes en vous plaçant, vous aussi, dans la lignée des grands déchiffreurs à l'instar de Jean-François Champollion. Alors comment le savant du XXe siècle voit-il le savant du XIXe? Il y a une longue chaîne d'égyptologues de renommée internationale qui se sont succédés à l'Institut. Citons Auguste Mariette, Gaston Maspero. Jean Leclan, comment percevez-vous cet héritage?
Je me suis avancé dans mes démarches d'égyptologue et plus j'ai rendu hommage à la mémoire de Champollion et pu mesurer son génie. Comme vous le savez, il est né le 24 décembre 1790. Un 24 décembre, c'est déjà une marque particulière. Et je dois dire que sur sa biographie, elle est en elle-même tout à fait prestigieuse, mais elle a donné lieu à une sorte d'hagiographie. Il y a toute une sorte d'histoire mythique de Champollion, soigneusement entretenue d'ailleurs par ses petit-neveu grenoblois, qui ont encore rajouté certains épisodes un peu dramatiques ou féeriques à une vie qui en elle-même déjà mérite d'être féerique.
Alors avant d'arpenter la vallée du Nil, Jean-François Champollion a grandi à Figeac, vous le rappeliez.
Oui, il a grandi à Figeac dans une famille d'origine dauphinoise. Hein.
Oui.
Ce nom d'ailleurs est encore porté, Champollion, Champolléon, Champollone, dans les hautes vallées des montagnes au sud du Dauphiné. Son père était un homme modeste, c'était un colporteur qui portait de ferme en ferme, à travers la France, c'était un de livres ambulants.
Oui.
Et ce marchand ambulant, passant par Figeac, a trouvé là, à Figeac, un libraire qui avait une fille à marier, et il a épousé cette fille, et c'est comme ça qu'il s'est fixé à Figeac.
Champollion est presque né dans les livres.
Oui, il est né dans les livres. Il est aussi né dans un milieu familial où il y avait avant lui plusieurs filles,
oui,
qui lui ont apporté la douceur, la protection de jeunes femmes plus âgées. Et aussi, il avait un frère qui a ses moines ou ses abbés qui étaient pourchassés par la police révolutionnaire, puis ensuite en discrédit auprès du directoire. Il y en avait un. Et cet ecclésiastique a donc vu un petit enfant de 4-5 ans dans cette famille. Il l'a emmené se promener, herboriser, et il s'est aperçu que le gamin absorbait absolument tout, le nom des plantes en latin, plus de secret, ou en grec. Et il s'est dit, mais pourquoi je vais apprendre quelques rudiments du latin? Le gamin avait 5 ans ou 6 ans, et on va lire ensemble les géorgiques. Ce qu'ils firent, et puis du géorgique, ensuite on est passé au grec. Et c'est comme ça que ce petit enfant a eu les rudiments. Pour le reste, ensuite, lorsqu'il a été sous la tutelle de son frère, je lui ai dit, il y avait des livres sur tous les sujets intéressants. Il y avait là-dedans, par exemple, une grammaire copte. Il a appris ce copte et il a compris que ces coptes vivaient dans l'Égypte. Et que par conséquent, les hiéroglyphes, dont il avait aussi des exemples dans la bibliothèque de son frère, ces hiéroglyphes, c'était dans le pays où l'on parlait copte. Et par conséquent, ils se sont dit, mais ça doit être la même langue. Si j'apprends le copte, j'aurai peut-être un chemin vers ces hiéroglyphes que personne n'avait lu. Ce qu'il a fait immédiatement, et son frère l'a expédié lorsqu'il avait 16 ans à Paris, suivre les maîtres.
Oui, alors on vient de voir effectivement la relation, le lien très fraternel, très fort entre les deux frères qui vont s'épauler et l'aîné fera venir son cadet auprès de lui à chaque fois que ça sera possible.
D'abord à Grenoble, ensuite il l'expédie à Paris. Voilà. Et un beau jour, lui écrit une lettre que nous possédons en lui disant « Écoute, je sais que désormais que c'est toi qui porteras l'illustre nom de Champollion et dans ces conditions, contrairement à l'usage qui fait que le second prend un nom plus spécifié par rapport à l'aîné qui, lui, porte le titre, le nom fondamental de la famille, eh bien, c'est moi qui vais m'appeler Champollion-Figeac pour me distinguer de toi, ce qui était envers de tout.
Il avait reconnu très tôt le talent indéniable de son frère.
Les qualités extraordinaires d'assimilation que ce bambin, devenu un garçonnet, puis ensuite, bien souvent en Égypte, il vaut mieux connaître l'arabe. Et d'ailleurs, c'est une langue sémitique de plus. C'est très important, puisque, comme vous le savez, dans les langues sémitiques, ce qui compte, c'est la racine, le schéma du mot. Oui. Et il est le même en hébreu, en arabe. Et il peut supposer, dès ce moment-là, que peut-être il va avoir la chance, il le retrouve en copte aussi, naturellement. Par le copte, il s'aperçoit que toutes ces langues sont voisines, au point de vue vocabulaire, au point de vue structure, et par conséquent, ça va lui être un gain extrêmement considérable.
Alors effectivement, il s'attelle à cette tâche. Bon, il travaille avec les plus grands maîtres de l'époque, avec Sylvestre de Sacy.
C'est un aspect sur lequel on s'y passe assez. Oui. Vous savez, pour toute invention, il faut supprimer beaucoup de choses. C'est-à-dire, il faut être, pour une invention, un homo novus. Il faut être un homme novus, il faut supprimer le vieil homme. Par conséquent, ainsi, et il subsiste toujours quelque chose. Si vous prenez une voiture, par exemple, bien, le moteur est devant parce que une voiture, c'est tiré par un cheval. Par conséquent, on met le moteur devant. Vous voyez, c'est quelque chose. Mais naturellement, il faut connaître absolument tout et avoir pensé qu'on peut remplacer le cheval par une machine. Mais là, c'est la même chose. Il y avait eu beaucoup, beaucoup, depuis la Renaissance, de suppositions faites. Eh bien, tout ça pour faire la tabula rasa. Et c'est pas facile du tout, parce que certains de ses prédécesseurs avaient trouvé des choses. L'abbé Barthélemy avait pensé que le copte et l'ancien égyptien, c'était la même chose. C'est pas Champollion qui l'a inventé, l'abbé Barthélemy l'avait pensé. Il avait pensé qu'il y avait un rapport avec l'angle sémitique. Il avait pensé aussi qu'il y avait des ovales. Ces ovales, c'était ce qu'on appelait les cartouches. Il avait pensé que c'était les noms royaux. Par conséquent, lorsque Champollion va s'atteler à essayer de retrouver dans les cartouches le nom de Ptolémée ou le nom de Bérénice, c'est pas gratuitement, il y avait déjà eu des prédécesseurs, mais ça c'était positif. Mais il y en avait beaucoup d'autres qui au contraire, en particulier un érudit très considérable, Kircher, avait pensé que tout ça c'était symbolique. Et alors, c'était les élucubrations les plus extraordinaires qui se succédaient. Mais il fallait supprimer tout cela. Et penser que suivre une voie humble, la loi de la langue, et par conséquent, filer sur le copte.
Alors on va reprendre la suite de cet entretien dans quelques instants après une pause musicale pour justement découvrir comment Champollion a compris cette écriture hiéroglyphique. On retrouve M. Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans quelques instants.
Thank you. أنا بمدح النبي صلوات الله عليه أنا بمدح النبي إلا طه الكريم ورضاه فرق كتب الشريعة بحكمته ورضاه يوم ليلة الإسراء جاب للإله رضا
Vous écoutez Canal Académie.
On retrouve M. Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au micro de Canal Académie, pour nous présenter l'illustre figure de Jean-François Champollion. Alors, nous reprenons cet entretien sur la découverte majeure que fit Jean-François Champollion sur l'écriture des hiéroglyphes. Qu'a-t-il donc compris ? À quelle combinaison a-t-il abouti ?
C'est-à-dire que toute grande découverte, toute grande innovation se situe en fait à la rencontre de différentes autres découvertes qui la rendent possible. Et là, la découverte qui est antérieure, qui permet la découverte par Champollion de la connaissance d'interprétation du système hiéroglyphique, c'est la découverte de la pierre de Rosette.
Oui.
La découverte de la pierre de Rosette, c'est aussi quelque chose qui est entré dans l'historiographie générale, de même que le nom de Champollion est universellement connu, la pierre de Rosette.
Oh, et lui est aussi associé, alors qu'il n'a jamais travaillé directement dessus.
Fondamental pour se reporter à l'expédition d'Égypte, à laquelle, faut le préciser, Champollion n'a jamais appartenu. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Champollion n'a jamais fait partie. Il ne peut pas, il est né en 1790. Donc il ne peut pas avoir, à 10 ans, participé à l'expédition d'Égypte. Encore qu'il y ait eu un Champollion dans l'expédition d'Égypte. Et encore que son frère, Champollion Figeac, est brigué et avait souhaité y participer. Et Champollion était évidemment beaucoup trop jeune pour cela. La découverte de la pierre de Rosette, c'est en juillet 1799. À ce moment-là, on craint un débarquement des troupes anglaises alliées aux Turcs, un débarquement qui aura lieu d'ailleurs, mais veut fortifier la bouche de Rosette. Par conséquent, on envoie à Rosette. Rosette, c'est aussi, c'est pas un nom charmant de jeune fille, Rosette. Rosette, c'est la transcription haute Égypte. Ces deux cartouches, il y en a un qui représente un soleil et un groupe. C'est le groupe de Metz que Champollion a identifié avec les Guénétlia. L'autre représente un ibis avec ce même groupe. Par conséquent, il pense immédiatement l'ibis, il sait pas. Parce que Champollion sait tout de l'Égypte ancienne, il connaît tous les textes des historiens anciens, et sait tout, sauf la valeur des signes hiéroglyphiques. Il faut qu'il sache tout le reste. C'est à partir du reste qu'il va faire la découverte. Il sait que l'animal sacré du dieu Thoth, c'est l'ibis. Par conséquent, il va lire l'ibis Thoth, Thothmès. Il connaît le nom de Thothmès par les listes royales. Quant à l'autre, le soleil serré, donc il va lire Ramsès. Voyez-vous ? Par conséquent, voyez comment on peut progresser à partir de l'idée que le soleil, c'est, ça signifierait, que ça doit signifier éventuellement le jour. Voilà. Voilà comment démarrent les séries d'équivalences qui vont lui permettre d'entrer dans le système. Attention, dans le système par une faille du système, par le fait que les Grecs et les Romains, pour signifier le nom de leur souverain, les Ptolémées d'une part et les Césars d'autre part, ont besoin de prendre des choses alphabétiques. Donc il va trouver les signes, ce qu'on appelle les signes alphabétiques, correspondants, qui sont simples, et sont simples. Ensuite, naturellement, il se débrouilla pour comprendre que le même signe, peut-être dans Metz, il y a deux sons pour nous. Mais en réalité, ils sont coupés dans un même hiéroglyphe. Par conséquent, l'hiéroglyphe va pouvoir être unilitaire, c'est alphabétique, bilitaire, éventuellement trilitaire. Voyez-vous ? Voilà comment vont se former petit à petit des équivalents. Vous voyez que pour ça, elle a besoin de balancer par-dessus bord toutes les idées de Kircher et toutes les idées des nombreux savants qui s'étaient cassés les dents, en particulier tous ceux qui pensaient que c'était la même chose que le chinois. Ah ça, il y a toute une école très intéressante d'ailleurs, qui a permis d'ailleurs d'éprouver la sinologie.
Oui.
En même temps.
Donc lui, le côté génial de son invention, c'est justement d'avoir pensé qu'il pouvait y avoir des caractères phonétiques.
Mais qui soient à la fois phonétiques et idéologiques,
voilà.
Voyez-vous.
C'est cette complexité.
Cette complexité du système hiéroglyphique, mais ça c'est en deuxième phase. Car il part d'abord sur les noms étrangers.
Mmh. Oui.
Les noms grecs et romains.
Oh, c'est de là qu'il part.
La base de départ. Ensuite, naturellement, il élargit.
Il va élargir. Et... Alors, cette découverte va faire l'objet d'une lecture célèbre à l'Académie des inscriptions et belles lettres.
Oui, alors là, c'est un petit peu postérieur.
C'est
il est quand même
postérieur.
Arrivé. À ce moment-là, c'est un génie précoce, hein, mais c'est seulement à l'âge de 32 ans, c'est en 1822 qu'il arrive à cela, et après. Des tribulations importantes qui sont dues au rôle politique des frères Champollion.
Oui, alors ils ont joué un rôle régional, ils ont été un moment
À Grenoble,
exilés à Grenoble.
À Grenoble, lorsqu'il avait, après son séjour à Paris, le frère aîné, Champollion Figeac, qui travaille à Grenoble, qui est assez en cours parce que il est en grâce auprès du préfet, le préfet Fourier.
Effectivement, c'est lui qui présente à Grenoble, c'est lui qui a participé à l'expédition d'Égypte.
C'est l'inventeur des principes de Fourier, des principes mathématiques très importants. Hein. Et Fourier était allé donc en Égypte, et ensuite Napoléon l'avait nommé préfet de Grenoble. Oui. Il resta d'ailleurs pendant tout le temps de l'Empire préfet à Grenoble. C'est aussi ça. Il y a des mystère dans les carrières, pourquoi Napoléon n'a-t-il pas appelé auprès de lui Fourier ? Il l'a laissé à Grenoble, où d'ailleurs Fourier a fait une œuvre très utile, a séché des marais, enfin toute une œuvre d'administrateur. Hein.
Mm-hmm.
Et naturellement, il avait rapporté quelques souvenirs d'Égypte, surtout était chargé d'écrire la préface, l'introduction à la description de l'Égypte. Et en réalité, s'en est déchargé en grande partie sur Champollion Figeac. Parce que Champollion Figeac a été un secrétaire général auprès de Fourier. C'est comme ça que Champollion Figeac a indiqué au préfet Fourier qu'il avait un jeune frère qui était un petit jeune homme remarquable et que Champollion a donc été reçu par Fourier. Et alors, localement, donc, Champollion jouait un rôle, tout a bien marché avec l'Empire. Naturellement, 1814-1815, au moment des 100 jours, Champollion-Figeac joue un grand rôle dans le fait, après la reddition des troupes au lac de la Fraye, à côté de Grenoble, et l'ouverture de la voie libre devant Bonaparte s'est arrêté à Grenoble. Et il a embarqué avec lui d'ailleurs Champollion-Figeac pour lui servir de secrétaire. Et c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il y avait un travail du jeune Champollion à publier. Il l'a fait avec lui, mais il n'a pas passé assez vite à l'imprimerie nationale. Et en 1815, le premier soin des adversaires, car ils en avaient beaucoup, les deux frères Champollion adversaires, a été de bloquer
cette
publication. Et cela, alors l'homme qui est là, qui va essayer de bloquer la situation des Champollion, c'est essentiellement Sylvestre de Sacy, qui était un énorme savant aussi, un énorme savant, qui avait la chair d'arabe, la chair de persan, qui est un des plus grands sémitisants que nous ayons connus.
C'est lui qui apprend l'arabe à Champollion, non ?
Comment ?
Ce n'est pas lui qui apprend l'arabe à Champollion ?
Ah, non.
Non, c'est une légende alors que j'ai lu.
Non, c'est une légende parce que Sylvestre de Sacy a écrit même une lettre en Angleterre à Young en lui disant méfiez-vous. Il y a un jeune coq à Paris qui veut se parer des plumes du paon. Il s'appelle Champollion, et surtout ne lui donner aucun renseignement. J'ai vu la lettre,
d'accord,
qui pendant des années a été naturellement exposée en pleine vue par nos amis anglais. Jusqu'à ce que je fasse savoir que c'est peut-être un petit peu indécent et qu'il valait mieux parler des choses positives que de s'attarder sur des querelles qui étaient de très loin dépassées. Car Young, j'ai fait là-dessus un discours, Young était lui aussi un génie.
Oui.
Simplement, Young était un génie, mais il l'a appliqué
aux
découvertes merveilleuses sur l'œil, il a donné la première description de l'œil, à des choses étonnantes comme le calcul des positions des navires en mer, des choses absolument remarquables de Young.
C'était
mais malheureusement, il n'a pas pu, car il a trouvé certains signes. Mais dans le déchiffrement que Jung a proposé, il y en avait une partie qui était bonne, mais il y en avait aussi beaucoup de mauvaises. Alors nous, nous savons qu'il y en avait de bonnes et des mauvaises, mais lui ne savait pas. Et par conséquent, il ne pouvait pas, les mauvaises solutions qu'il avait trouvées l'empêchaient de trouver la solution définitive.
Un petit peu plus tard vont être publiés le précis du système hiéroglyphique.
Ah, ça, c'est 2 ans après. La première chose, c'est 1822.
Alors,
1822. En septembre 1822.
Alors, c'est l'événement, c'est la lettre.
C'est la lettre, à monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie. La lettre à monsieur Dacier, secrétaire de l'Académie, provient du fait que Champollion Figeac, toujours lui, était venu s'installer 28 rue Mazarine. 28 rue Mazarine, car il était le secrétaire de monsieur Dacier, le secrétaire perpétuel. Donc, il était au centre de tout le mouvement académique. Mais étant donné l'hostilité de Sylvestre de Sacy, son jeune frère ne pouvait pas connaître de grand développement, car Sylvestre Sacy casait ses propres... Mm-hmm. Il casait comme professeur au Collège de France des gens qui étaient en rivalité totale avec Champollion. La lettre, d'ailleurs, s'est appelée dans un premier temps « Lettre à M. Sylvestre Sacy, président de l'Académie des inscriptions ». Je connais la lettre, et je connais aussi le trait rageur par lequel l'un des deux frères a fait sauter le nom de M. Sylvestre de Sacy, le baron Sylvestre de Sacy, par celui de M. Dacier. Je dis le baron, car je connais une autre lettre où le frère aîné dit à son jeune frère, quand tu lui écris, surtout, mets bien devant baron. Il l'est depuis si peu qu'il en est encore à l'exhiber un peu partout. Voyez-vous, voilà le ton que l'on découvre lorsque l'on va chercher les papiers eux-mêmes. Et naturellement, les frères Champollion étaient aussi de redoutables débatteurs. Mmh. Eux aussi, le coup fourré, ils connaissaient. Hein, et par conséquent, il y avait des polémiques de journaux à journaux qui se tramaient. En tout cas, c'est la lettre à M. Dacier. C'est comme ça que Joseph, il s'appelait Joseph von Dacier, qui a été secrétaire perpétuel avant la Révolution, puis ensuite, comme vous le savez, ça se voit entrer dans l'histoire de l'Institut de France, et les tribulations. Quand on a rétabli un secrétaire perpétuel, d'abord une inscription des belles-lettres, ensuite un secrétaire perpétuel, c'est Joseph von Dacier qui est revenu au pouvoir. Et par conséquent, c'est lui qui, à partir de ce moment-là, a soutenu les frères Champollion et Champollion. Si bien que dans Champollion, lorsqu'il est en Égypte, un 1er janvier 1829, a écrit une lettre à M. Dacier en lui disant « Je suis arrivé au bout de mon exploration. En face de moi, c'est la Nubie, le Soudan, des terres incognitées. Mais je tenais, en ce 1er janvier, à vous assurer de ma gratitude, acquise à jamais, de m'avoir permis de faire le déchiffrement des hiéroglyphes. »
Alors, on vient de voir que les adversaires des frères Champollion étaient nombreux, mais ils ont eu aussi des liens avec d'autres savants européens qui les ont défendus.
Exemple,
est-ce que vous pourriez nous en parler?
Oui, par exemple, à cette séance du 22 septembre 1822, assistait quelqu'un dont, d'ailleurs, le souvenir est évoqué à quelques pas de l'Institut de France, sur le quai, 200 mètres d'ici, c'était Alexandre de Humboldt. Alexandre de Humboldt assistait à cette séance, donc assistait en voisin aux séances de l'Institut, il était venu à cette séance, et là, il a été frappé par ce déchiffrement. Il a écrit immédiatement à son frère, le fameux...
Oui, là aussi, c'est une histoire de deux frères. Hein.
Oui, deux frères aussi, oui, c'est très intéressant. Deux frères qui sont aussi, en quelque sorte, jumeaux, hein, les deux frères de Humboldt, Wilhelm von Humboldt, qui était en Allemagne, et il lui a envoyé quelques documents, et Wilhelm von Humboldt a tenu immédiatement à écrire à Champollion pour lui dire « Tenez bon, c'est vous qui avez raison, vous avez sûrement trouvé la clé des hiéroglyphes ». Par conséquent, c'est extrêmement intéressant.
Oui, et c'est peut-être le côté novateur de la façon dont Jean-François Champollion avait pris l'étude des langues qui avait satisfait lui-même ses propres principes.
Parce que Humboldt était un linguiste consommé, et lui voyait tout de suite, naturellement, mais comme vous avez parfaitement raison, méthodologiquement, non seulement naturellement, l'accès à 3 millénaires d'histoire, ce qui est le gain de la découverte de Champollion, mais en même temps, au point de vue théorique, comment s'effectue un déchiffrement.
Voilà, donc...
Plus qu'un déchiffrement, un décryptement.
Et quelle est la différence ?
Bien, l'un est purement matériel, oui. Et l'autre est l'étude du système.
D'accord. Je vous propose, Monsieur Jean Leclan, de marquer une courte pause musicale et de vous retrouver dans quelques instants pour poursuivre notre entretien et le beau portrait que vous tracez de Jean-François Champollion.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
On retrouve M. Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui retrace le portrait de Jean-François Champollion, grand orientaliste, génie précoce, inventeur des hiéroglyphes, polyglotte. Avant de partir sur...
C'est que le monde avait été créé, rappelez-vous la Bruyère, depuis 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent 7000 ans, il y a 5000 avant, ça semblait vraiment... Christ, ça semble très extraordinaire déjà, pas du tout, ça ne nous semble pas nous extraordinaire, mais Champollion, lui, fixait au contraire une date basse en disant non, ça c'est à peu près vers l'ère chrétienne, etc. Et par conséquent, lorsque, par exemple, Champollion ira en Italie, le pape tient à le voir.
Oui, il le rencontre, Léon XII.
Oui, le pape le reçoit.
Et il est favorable à ces découvertes.
Le pape est charmé, il est favorable à cette découverte puisque elle lève l'hypothèque de date beaucoup plus élevée pour la naissance du monde, etc. Vous voyez, alors Champollion, malgré ses libérales, là, est reconnu par l'Église et par le pape. Et le pape, même après cette visite, s'étonne. Il dit, ce jeune homme est très bien, simplement il vient me voir en grande tenue et je n'ai pas vu... de décoration. À l'étranger, la Légion d'honneur, ça se voit, c'est rouge, c'est visible et prestigieux. Et l'ambassadeur, immédiatement, câble à Paris en disant, mais Champollion, le pape s'est étonné qu'on lui présente un jeune homme aussi célèbre, avec une telle notoriété qu'il n'y a pas la Légion d'honneur. Et c'est comme ça, par l'intermédiaire du pape, que Champollion a reçu la Légion d'honneur. Vous voyez, ce sont les chemins bizarres dans les carrières et dans l'histoire.
En Italie, là,
Italie reste une année. Hein. Oui. Par conséquent, il a accès à ces statuts que, précisément, Carlo Felice, le roi de Piémont-Sardaigne, Carlo Felice vient d'acquérir cette collection. Carlo Felice, naturellement, c'est très intéressant que la collection était à Livourne, mais de là, Carlo Felice a fait passer à Gênes, et il envoie à Gênes tous les affûts de canon de son armée. Parce que pour pouvoir transporter ces pièces qui pèsent des tonnes et des tonnes, il y a une centaine de statues de Ramsès et de cette époque-là. Oui, et tout ça est arrivé sur les affûts de canon de l'armée. Et comme je faisais une conférence à H, et par conséquent, il a mis la main sur cette autre collection qui est expédiée au Louvre. Alors ça, c'est important. Champollion, donc, doit obtenir du dieu Blacas aussi, qu'on l'envoie en mission en Égypte même, et il va partir avec quelques amis, en particulier quelqu'un qui va jouer par la suite un assez grand rôle, qui est un neveu de la famille de Mariette, déjà, de Boulogne, et aussi Cherubini, le fils du compositeur. Ils vont faire une expédition qui va les emmener jusque à travers la Nubie, jusqu'à la deuxième cataracte, où il sera le 1er janvier 1829.
C'est la mission, celle qu'on appelle dans les livres, la mission franco-toscane.
C'est la mission franco-toscane, oui, parce que son second,
qui dure quelques
c'est
mois.
Rosellini, oui, une année presque, Rosellini, qui était aussi un homme fort doué, qui était à Pise, et Florence et Pise. Et ce Rosellini va jouer un grand rôle et va devenir ensuite, va publier beaucoup de textes et est le fondateur de l'égyptologie en Italie.
Alors là, Champollion se fait l'explorateur.
Marchant des terres totalement nouvelles, en particulier lorsqu'il s'en va à travers la Nubie et qu'il atteint ainsi vraiment la limite. La Nubie venait juste d'être conquise en 1821 par les troupes d'Ismaïl Pacha, le troisième fils de Mehmet Ali. Et là, Champollion, par conséquent, peut aller, mais alors c'est assez difficile en Nubie et à deuxième cataracte, à Wadi Halfa. Il s'arrête parce que il a devant lui, d'ailleurs, le Bat Nel Hagar que j'ai traversé, moi, une vingtaine de fois dans ma vie, et toujours avec beaucoup d'appréhension, même avec les moyens modernes, avec ma Jeep, l'appréhension de casser et d'être à ce moment à 100 km de la vallée, parce qu'on ne peut franchir que par des passes désertiques assez éloignées de la vallée. Et là, il s'arrête, il comprend que c'est un autre monde, il voit ça devant lui, mais il lui faut repousser chemin.
Alors sur place, en fait, cette mission a fait des relevés importants.
Extrêmement importants. Parce que le mal l'a terrassé au mois de mars 1832. Il est décédé. Et revanche des ironies du sort, les cordons du poil étaient tenus par quatre personnes, parmi lesquelles se trouvait Sylvestre de Sacy. Sylvestre de Sacy, qui était devenu le personnage numéro un de l'Académie Inscriptions et Belles-Lettres. Sylvestre de Sacy, qui à ce propos-là a dû prononcer un éloge mortuaire de Champollion, qui est le texte, pour un savant de cette qualité, le plus extraordinaire que j'ai jamais lu, car Champollion sort, bon père de famille, ce qui n'était pas exactement, bon époux, bon père de famille, bon ceci, bon cela, mais pas un génie, qu'il était réellement. Par conséquent, voilà encore, si vous voulez, ces destinées étonnantes, mais par la suite, le génie de Champollion a été parfaitement reconnu. Et à travers les siècles, demeure jusqu'à nous, puissamment dans notre cœur et dans notre esprit.
Alors effectivement, même son frère a longuement travaillé
alors,
à la publication de ses textes.
Alors après, son frère, naturellement, a entretenu le... Alors ça, c'est une autre question. Je vous parlais des mauvais sentiments de Sylvestre Sacy, au contraire, du côté de Champollion, Figeac, une exploitation, faut dire, du nom de Champollion. D'ailleurs, Champollion-Figeac aura des ennuis en 1848, il sera révoqué, etc. Inversement, une partie de la famille devient très pieuse. Et il y a une, je vous parlais tout à l'heure des petits-neveux de Champollion. Alors là, Champollion apparaît comme une sorte de saint de la science. Enfin, tous ces aspects-là...
Qui sont, fait qu'aujourd'hui, ça reste un grand savant très, très populaire dans la culture française.
Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais au-delà de ces petites manipulations, de ces petites annexations qui ont lieu dans le courant des gens, il est reconnu naturellement, universellement, comme le patron de l'égyptologie, une science qui ensuite a connu des grands noms. Vous disiez tout à l'heure, il est évident, Mariette, qui lui a fondé l'archéologie de terrain en 1857, ou comme Maspero, qui lui a été à la fois un philologue et un historien, et un archéologue et un historien, qui est d'ailleurs le dernier égyptologue complet. Parce qu'entre-temps, depuis, il est sorti tellement de monuments, il y a eu tant de textes à publier, tant de monuments à commenter, tant de problèmes historiques à régler, que désormais, plus personne ne peut prétendre la production d'égyptologie d'environ 1200 à 1500 numéros par an. Par conséquent, il est impossible. J'avais un patron qui disait que il ne faut jamais faire d'index à des ouvrages, etc., parce que ça facilite le travail, alors que tout égyptologue doit aller à la source eux-mêmes. Alors, j'étais forcé de penser qu'il avait une table de nuit vraiment très solide, parce que les 1500 numéros, il faut travailler alors nuit et jour pour essayer et tenter de les lire, et certains de ces volumes en égyptologie ont des poids considérables. Par conséquent, j'étais très étonné de cette prise de position. Et personnellement, j'ai toujours publié pour aider les gens, justement, avec des index. Pour moi, c'est fondamental.
C'est fondamental.
Un livre qui n'a pas un bon index, et quelquefois, je lis le livre à travers les index. Parce que j'ai pas le temps de lire les 400 pages de l'ouvrage. Mais grâce à l'index, je sais où je dois, moi, chercher le miel qui est le mien.
Merci, Monsieur Jean Leclan, d'avoir présenté pour nous la figure illustre de Jean-François Champollion, savant hors pair, inventeur du système des hiéroglyphes. Merci beaucoup de nous avoir présenté le génie de ce grand savant.